bien 87.7 FM.
Parler.
Et si c'était,
et
à,
si
vous
c'était à vous de parler.
Et si c'était à vous de parler.
De 18h à 23h.
Ça ne tient plus.
Ça ne tient,
ça
plus.
Ne tient plus.
À vous la parole.
Ça
à
ne tient
parole.
Plus. L'émission,
merci de faire
c'est
vivre
parti.
Les radios de proximité et vos associations.
Ça ne tient plus. L'émission, c'est parti. Nous sommes ensemble sur Radio Campus Amiens 87.7 FM avec le mouvement associatif Hauts-de-France et la maison des associations d'Amiens Métropole pour 5 heures de direct consacrées au financement 2026 pour les associations. Cette soirée s'inscrit dans la continuité de la mobilisation nationale inédite du 11 octobre, durant laquelle plus de 350 actions ont été organisées partout en France pour alerter sur la crise sans précédent traversée par les associations confrontées à des baisses budgétaires majeures et à une fragilisation de leurs activités essentielles. Durant la soirée, nous recevrons de nombreux invités. Mais pour commencer, Gabriel Zucman était à Lille le 25 novembre à l'UPJV et il nous a accordé une courte interview. On l'écoute sans tarder.
Bonsoir Monsieur Zucman. Merci de votre présence à l'Université de Picardie Jules Verne et de nous faire l'honneur à Radio Campus Amiens d'une interview. Ma première question est relativement simple. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous donner la définition, le principe de la taxe que vous proposez ?
C'est très simple. C'est un impôt minimum sur les gens extrêmement riches, défini comme ceux dont le patrimoine dépasse 100 millions d'euros. Et pour ces contribuables-là, qui sont au nombre de 1800 à peu près en France, on leur demanderait de payer un minimum chaque année en impôt personnel égal à 2% de leur fortune. C'est-à-dire, on regarde ce qu'ils payent aujourd'hui en impôt sur le revenu, en impôt sur la fortune immobilière, on fait la somme de tout ça. Si c'est égal à 2% de leur fortune, ils n'auraient rien de plus à payer. Mais si c'est moins que 2%, et c'est souvent le cas, alors ils auraient à payer la différence pour atteindre ce plancher incompressible de 2%.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer cette taxe ? Voilà, vous faites des recherches en fiscalité, notamment internationale, depuis un certain nombre d'années. Mais qu'est-ce qui vous a motivé précisément à proposer cette taxe ?
C'est le constat qui a été fait récemment, c'est que depuis 2 ou 3 ans qu'on le sait, que les plus grandes fortunes se soustraient largement à l'impôt en France. Elles ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Et en conséquence, tout prélèvement obligatoire compris, elles payent 2 fois moins d'impôts que le français moyen. Pour le français moyen, c'est 51%, le taux de prélèvement obligatoire, tout impôt compris. Et pour les milliardaires, c'est seulement 25%. Le taux plancher que je propose, l'impôt minimum que je propose, c'est simplement l'impôt qui permettrait de s'assurer que les milliardaires paieraient autant que les autres catégories sociales. Ils ne paieraient même pas plus, mais ils paieraient autant. Autrement dit, c'est une mise en conformité de notre fiscalité avec notre principe d'égalité devant l'impôt. C'est-à-dire ce qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe selon lequel les personnes extrêmement riches ne devraient pas pouvoir payer moins en proportion de leurs revenus que les autres catégories sociales.
Très bien. On est en plein débat budgétaire en ce moment en France, au niveau national. Les choix qui sont opérés par le gouvernement et une partie des forces politiques, c'est de réduire prioritairement les dépenses publiques et d'augmenter très légèrement les recettes publiques. Qu'est-ce que ça vous inspire au regard de vos travaux ?
Ce que fait le gouvernement, comme les précédents gouvernements, consiste à dire en substance, on est prêt à tout. Toutes les baisses de dépenses possibles, les déremboursements de médicaments, les gels de prestations, mais sauf taxer les milliardaires. Ça, c'est hors de question. Je pense qu'il faudrait faire l'inverse. On a des problèmes de finances publiques qui sont graves, qu'il ne faut pas minimiser. Un déficit de 5,4% du PIB, une dette publique de 116% du PIB. Et donc, il faut s'y attaquer. Et la façon la plus logique de s'y attaquer, c'est en demandant aux personnes qui sont à la fois les plus fortunées et les moins imposées aujourd'hui de contribuer davantage.
Très bien. Merci beaucoup au nom de Radio Campus Amiens. Et très belle conférence à vous.
Merci. Merci à vous.
Parler.
Et si c'était,
et
à,
si
vous
c'était à vous de parler.
Et si c'était à vous de parler.
De 18h à 23h.
Ça ne tient plus.
Ça ne tient,
ça
plus.
Ne tient plus.
À vous la parole.
À vous la parole.
Merci de faire vivre les radios de proximité et vos associations.
On nous signale déjà que la géographie, c'est pas mon fort. Évidemment, vous aviez noté de vous-même, le 11 octobre, il y avait une grande manifestation à Lille, mais Gabriel Zucman, le 25 novembre, était à Amiens. Et pour rester en bonne compagnie, On accueille Claire Bizet du mouvement associatif Hauts-de-France et Evelyne Journeau de la Maison des associations d'Amiens Métropole qui vont nous rappeler rapidement quels sont les enjeux de la mobilisation associative en cours pour mettre en lumière celles et ceux qui agissent au quotidien dans un contexte de débat budgétaire intense au Parlement.
Bonjour, je suis donc Claire Bizet, je suis la directrice du mouvement associatif des Hauts-de-France, qui est une structure qui rassemble la vie associative à l'échelle régionale. On est issu d'un mouvement national qui rassemble tous les secteurs de la vie associative réunis au sein de réseaux, soit par grands secteurs d'activité, mais aussi de réseaux plus territoriaux, comme les maisons d'associations, la maison des associations d'Amiens Métropole, qui est à nos côtés aujourd'hui. Le mouvement associatif s'alarme depuis déjà plusieurs années sur la situation des associations, qui est assez compliquée depuis plusieurs années. On considère qu'en 20 ans, la part des subventions publiques, elle a baissé de 40% dans le modèle associatif. Donc, c'est pas rien. Et ça s'est accéléré vraiment ces deux dernières années avec un effet ciseau. Puisque d'une part, les charges ont augmenté pour les associations, comme pour tout le monde. Hein. On a des coûts de chauffage, de loyer, la vie coûte plus cher. Donc la vie coûte plus cher aussi pour les associations. Et de l'autre côté, les ressources n'augmentent pas, voire elles baissent. Là, il y a actuellement, dans une enquête qu'on a menée avec l'Observatoire régional de la vie associative, cette enquête qu'on a menée au niveau national et au niveau régional montre qu'une association sur deux a perdu des financements et a subi des très très fortes baisses de ses financements publics. Donc les coûts augmentent, les recettes n'augmentent pas, donc évidemment, ben voilà, ça ne tient plus. Ça ne tient plus aussi parce que quand on s'engage dans une association, et peut-être qu'Evelyne pourra le dire, mais quand on est bénévole, c'est pour une cause, c'est pour partager des choses, mettre en œuvre des activités. C'est pas pour gérer de la pénurie, se dire quel salarié on va licencier, quelle activité on va arrêter. Donc on a aussi un épuisement de nos bénévoles, de nos salariés qui n'ont plus les moyens de faire un travail de qualité. Donc la situation, elle est grave pour les associations, mais in fine, derrière tout ça, ce sont encore une fois des activités en moins, donc des clubs sportifs qui vont faire moins d'événements, ça va être moins d'événements culturels, mais ça va être aussi tous les publics que prennent en charge les associations. Je rappelle qu'on a un taux de pauvreté aujourd'hui en France de plus de 15% qui a explosé ces dernières années. Et les gens qui sont en situation de précarité aujourd'hui, eh bien beaucoup sont pris en charge par les associations qui gèrent les hébergements d'urgence, qui gèrent l'aide alimentaire. Donc là aussi, ça veut dire toujours moins de public accompagné. Donc encore une fois, voilà, on a voulu rendre tout ça un peu visible. Ne pas mourir en silence, ne pas arrêter des activités en silence, mais faire savoir que toutes les difficultés qui sont celles des associations et tous les impacts que ça peut avoir au quotidien sur la vie de chacun et chacune.
Alors de mon côté, donc Evelyne Journeau, je suis administratrice de la MAM. C'est vrai que pour nous, les enjeux sont nombreux. Il y a bien entendu un enjeu sur la reconnaissance de l'engagement, parce qu'effectivement, quand on n'apporte plus beaucoup de financement, ça signifie on vous reconnaît pas trop. Et il y a donc un enjeu réel sur le dynamisme des associations, parce que moins de financement, ça signifie moins d'action. Il y a un enjeu sur le grand public, notamment, qui est en fragilité. Et nous avons dans notre conseil d'administration des grosses associations qui portent sur le social, sur la santé, telles que CIDFF, telles que l'UDAF, qui, ce sont des associations d'associations, et aussi comme nous, mais... bien entendu, on va vous dire « Ah mais non, les petites associations, on ne va pas y toucher. » Sauf qu'on va toucher aux grosses qui font de l'animation des petites, qui accompagnent les petites, qui les inspirent, etc. Et donc, on va aller sur une pauvreté des actions. Et donc, on va perdre de l'emploi, bien entendu. Et sur le terrain, ce que notamment les administrateurs... alors, bien entendu, il y a toutes sortes d'associations. Il y a des petites associations qui emploient 1 à 10 salariés. Et il y a des grosses associations qui sont à plus de 50 salariés. Donc, c'est vrai que le dimensionnement est un peu différent, et notamment le travail des administrateurs est différent. C'est-à-dire, quand on n'a qu'un seul salarié, je pense au secteur culturel ou au secteur sportif, qui connaissent bien le sujet, c'est-à-dire ils ont en général un entraîneur qui finance. Et bien sûr, l'employeur, c'est bien le conseil d'administration. Et le conseil d'administration, il est bénévole, lui. Et donc, toutes les recherches de financement, ce sont ces bénévoles-là qui passent du temps pour récupérer cet argent, pour mener à bien des missions qui, quelquefois, sont des missions de politique publique. Donc, c'est vraiment un gros souci. Donc, je pense au burn-out des administrateurs. Parce qu'il y en a, il y en aura de plus en plus, parce que aller chercher beaucoup moins d'argent, ça va être beaucoup, beaucoup plus fatigant. Et surtout, ça va amener un tracas monstrueux et une responsabilité sur la tête des administrateurs vraiment très forte. Donc, tout ça me fait dire que il faut que ça arrête et qu'on ne sacrifie plus les associations au premier venu, quoi.
C'est vrai que malheureusement, les associations sont souvent les variables d'ajustement budgétaire. Elles sont souvent silencieuses aussi. Et donc, c'est bien pratique, effectivement, de pouvoir... supprimer plusieurs financements sans que ça fasse trop de vagues. Mais derrière, ça veut dire toujours moins d'activités, toujours moins de services à la population, toujours moins de lieux où on peut simplement être ensemble, toujours moins de démocratie, de participation citoyenne. Les associations jouent un rôle considérable dans la société. C'est elles qui vont ouvrir des nouveaux droits. On le sait, par exemple, on l'a vu sur des enjeux médicaux, sur des enjeux sur les droits des femmes, sur un certain nombre de choses. C'est parce que les associations peuvent aujourd'hui faire entendre la voix des citoyens et citoyennes qu'elles peuvent faire évoluer les politiques publiques, ouvrir des nouveaux droits. Ce sont aussi des lieux où on va réfléchir ensemble, faire des activités ensemble. Ça fait encore une fois des années qu'on est allé chercher des marges de manœuvre, qu'on a essayé de faire comme on pouvait, de bricoler, de réduire les coûts, de réduire certaines activités, etc. Mais aujourd'hui, on a atteint la limite et on ne peut plus du tout tenir, quoi.
Alors, au niveau du bricolage, les associations savent bricoler. Bien entendu, on sait tous bricoler. Sauf qu'à un moment, la bricole, il nous faut des matériaux, il nous faut des choses et puis des bras. Et donc, ça ne tient plus. À un moment, on ne peut plus faire sans financement. Le peu qu'on nous donnait, ça a démultiplié le nombre d'heures de bénévoles, un travail monstrueux qui est fait par les associations qui n'est pas reconnu. Pour nous, ce n'est pas reconnu. Et donc, il faut absolument que les associations puissent être aidées. Et notamment, bien entendu, financièrement, parce que le financier, c'est du temps, c'est des matériaux, c'est des locaux, c'est du matériel. Donc, tout ça, c'est excessivement important.
Effectivement, et puis, en résumé, je dirais qu'il y a de moins en moins d'argent, qui arrive de plus en plus tard, qui est de plus en plus difficile à aller solliciter. On voit aussi que la façon dont les pouvoirs publics vont pouvoir financer les associations, ces modalités de financement ont changé aussi avec le temps. On a de plus en plus d'appels à projets qui mettent les associations en concurrence entre elles au lieu de les inciter à travailler ensemble, à monter des projets communs, qui vont occasionner une surcharge administrative. On va devoir refaire le même dossier tous les ans pour une même action, alors qu'on sait voilà, que c'est une action. On prend souvent cet exemple, mais sur des petites associations qui font de l'aide aux devoirs sur les quartiers, bon, bah, tous les ans, elles vont devoir redéposer un projet. Ça va leur prendre du temps pour expliquer en quoi ce qu'elles font est innovant, alors même que l'on sait très bien que cette aide aux devoirs, ce qui est réalisé par cette association sur le quartier, on en a besoin tous les ans et qu'il est hors de question que ça s'arrête. Ou en tout cas, que si ça s'arrêtait, ça pénaliserait énormément la société. Donc, on a besoin voilà, de repenser en profondeur cette question du financement des associations au regard des services qu'elles rendent à la société.
Merci Claire et Evelyne. On vous retrouve un peu plus tard dans cette soirée.